Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Le Réveil culturel, c'est tous les jours de la semaine dans les petits matins de France Culture. Et pour ceux qui ne sont pas lève-tôt, eh ben, l'écoute en ligne ou le podcast de l'émission sont disponibles sur l'application de Radio France. Ou alors en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Le 4 octobre 1970, mourait d'une overdose d'héroïne la chanteuse américaine Janis Joplin. 50 ans plus tard, retour sur le mythe de cette icône du rock en compagnie de Nathalie Yott, qui sort en début de semaine prochaine dans la collection Les Indociles de Webeck, une biographie, disons, très personnalisée et actualisée de Janis Joplin. Bonjour Nathalie Yott.
Bonjour.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Nathalie Yott, vous avez été vous-même chanteuse dans un groupe de rock dans les années 90, avant de vous consacrer à la poésie, au théâtre et à la littérature. Vous êtes donc l'auteur d'un nouveau livre qui retrace la vie brève et la carrière mouvementée de Janis Joplin, tout simplement intitulé Janis Joplin. Ça sort chez Webeck la semaine prochaine. Or, Nathalie Yott, vous n'étiez pas née quand elle était géante, vous n'étiez pas née quand elle sombrait et se relevait sans cesse. Quand elle gueulait dans son micro comme une chienne qu'elle était, comme un ange aussi, un ange halluciné, bien sûr, je vous cite, ce sont vos mots, et vous dites que vous l'avez connue et que vous l'avez vue sur des écrans après, bien après, et que vous avez écouté sa voix, cette voix qui supplie, s'extasie dans la plainte, se tord et se demande toujours et encore plus, try, just a little bit harder, on vient de l'écouter, essaye juste un petit peu plus fort. Est-ce par la légende, c'est-à-dire l'icône du rock qui meurt à l'âge de 27 ans comme Jim Morrison la même année, ou c'est la musique, ou c'est ce qu'elle a pu représenter dans les années 60-70? Qu'est-ce qui vous a plu, Nathalie Yott, dans la vie et dans la carrière de Janis Joplin pour vouloir écrire un livre sur son parcours?
Ce qui m'a plu, c'est principalement le fait que je sois très souvent attirée par les gens qui repoussent les limites, qui ne veulent pas correspondre. Et je pense que dans cette époque-là, il y avait toute une jeunesse effectivement qui essayait de sauter les barrières, de repousser et d'être contre cette Amérique ségrégationniste, puritaine et voilà, de leur éducation, on va dire. Et Janis Joplin, je pense, a cristalliser toutes ses libertés et était engagé implicitement avec tout son corps, sa voix, dans ce mouvement utopique de liberté.
Mais qu'est-ce qui reste de ce mouvement utopique, de cette période, 50 ans après la mort de Janis Joplin.
Il s'est vite arrêté, hein, il a vite été contrecarré par le gouvernement, et puis ce qu'il en reste, c'est que malgré tout, des lois ont avancé pour les Afro-Américains, pour les femmes, pour les homosexuels. Ils n'ont pas tout perdu.
Nathalie Hutt, votre livre n'est pas seulement une biographie, une de plus consacrée à l'icône rock, mais c'est aussi un texte personnel. Il aurait même pu s'intituler « Comment j'ai rencontré Janis Joplin des années après sa mort et comment mes amis d'aujourd'hui écoutent et voient cette chanteuse disparue ». Et vous écrivez ceci qui m'a beaucoup plu. « Janis Joplin est née la même année que ma mère en 1943. Janis à Port-Arthur au Texas, ma mère à Strasbourg en Alsace. Je pense qu'elles n'ont absolument rien en commun, je dirais même qu'elles sont aux antipodes, mais peut-être que je me trompe. L'une comme l'autre ont subi leur époque. Ma mère s'appelle Marlène, prénom imposé par les Allemands de la France occupée. Elles se sont aussi confrontées aux idées verrouillées des générations précédentes. »
Bah oui, même donc en France, dans les années 70, ma mère a voulu avoir ses libertés aussi, partir du cocon familial, puis plus tard divorcer, voilà.
Elle n'écoutait pas Janis Joplin.
Non, elle n'écoutait pas Janis Joplin. C'est pour ça que je dis qu'elles étaient probablement aux antipodes, mais comme je dis aussi, on ne connaît pas bien ses parents, en fait. Quand on n'était pas né, en tout cas, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait avant. Quelque part, il y a des secrets qui restent. Mais je pense que, effectivement, à la recherche de liberté, elle aussi, tout comme Janis.
Vous vous souvenez de l'année ou du moment où vous avez découvert Janis Joplin par des gens qui en ont parlé, ou peut-être par une biographie?
Plutôt par l'écoute des grands frères. Des amis qu'on peut appeler des frères et qui écoutent ça, un peu plus âgés. Et oui, par Summertime, je pense, cette chanson, cette reprise absolument magnifique, complètement débridée de Janis. Oui, c'est plutôt par la musique et puis sa voix, beaucoup sa voix, très libre, très libre.
Dans ce livre que vous consacrez à Janis Joplin, j'ai l'impression que tous les arguments que vous avancez pour l'encenser, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. On a l'impression que ça l'enfonce en réalité, car, vous le savez bien, les temps ont changé. Par exemple, quand vous dites « elle a été la première chanteuse blanche à chanter comme une noire », aujourd'hui on dit « appropriation culturelle ». Quand vous dites c'est la première femme du rock à se comporter comme un homme, je ne sais pas si aujourd'hui ça passe. Et enfin, quand vous insistez sur son côté drogué, bisexuel, alcoolique, grande gueule, écorché vive, vous n'utilisez pas le terme d'ensauvager ou d'extrémiste de gauche, mais c'est tout comme.
Oui, c'est peut-être pour ça que les choses n'ont pas beaucoup changé en fait, et qu'il en faut encore des gens comme ça qui démontrent qu'ils sont libres et qu'ils ont envie d'être un mec parmi les mecs, qui ont envie d'être au-delà justement des apparences, parce que elle a quand même beaucoup été jugée sur son apparence masculine, après son apparence extraordinairement féminine avec toutes ses plumes, etc.
Mais le paradoxe, c'est quand elle chantait comme une noire dans les années 60-70, c'était un manifeste politique. Aujourd'hui, ça se retourne contre elle. On dit, c'est de l'appropriation culturelle.
Oui, mais à l'époque, tous les chanteurs essayaient d'avoir cette voix des noirs, cette musique de chanter et de jouer comme les noirs. Donc, elle y est arrivée, elle. Elle a tellement chanté sur ses idoles noires, Odetta, Bessie Smith, etc., que elle a intégré. D'ailleurs, elle a découvert sa voix en chantant par-dessus une chanteuse qui s'appelle Odetta, et je le raconte dans le livre, et c'est assez marrant puisqu'elle a toujours chanté à la chorale avec sa mère, etc. Et d'un coup, en chantant avec les amis sur la radio comme ça, tout le monde se tait et les écoute et se dit elle sait chanter. Et là, elle découvre qu'elle sait vraiment chanter, c'est-à-dire qu'elle sait vibrer et faire vibrer les autres. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à se faire aimer, parce qu'elle était en quête continuelle d'amour, et c'est par le chant qu'elle est arrivée à se faire aimer de son public.
Alors, vous racontez son enfance au Texas, vous racontez aussi ses premières virées dans le pays, son premier voyage à San Francisco, sa passion pour le dessin qui l'amène à lire donc de la bande dessinée, mais elle est baignée dans la contre-culture. Hein. On est au beau milieu des années 60, au début des années 60, elle lit le magazine Mad, par exemple. Plus tard, elle va lire la revue Faux, éditée par Robert Crumb, qui dessinera la fameuse pochette de son album Cheap Thrills. Bien sûr, Ginsberg, Kerouac, Burroughs, elle les a lus, vous le dites. Et quand vous parlez de son premier concert, ou du moins de la première critique de Janis Joplin, c'était en juillet 1962 dans le Summer Texan. Et l'article est tout à la fois ironique et admiratif, puisque le titre de l'article, c'est « Elle ose être différente ».
Voilà, tout à fait. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est qu'on parle d'elle. Enfin, on parle d'elle. Donc, ça se passe à Austin, au Texas. Elle est dans cette enclave un peu beatnik qui s'appelle le ghetto, où se retrouve toute cette jeunesse en quête de liberté. Et donc, elle chante déjà beaucoup. Elle fait beaucoup la fête, etc. Et elle finit par se faire remarquer, effectivement, et à avoir cet article. Elle ose être différente, parce que c'est pour ça qu'elle est devenue vraiment une icône du féminisme, parce qu'elle a osé vivre avec son corps, faire vibrer son corps et son chant.
Quand vous dites vivre avec son corps, c'est-à-dire vivre à la garçonne, parce que ça, elle le revendiquait.
Oui, vivre à la garçonne, mais aussi très vite après. Au début, elle était vraiment garçon, habillée en jean, etc. Et très vite, comme elle avait un gros problème avec son corps, sa féminité, elle a été, comme elle l'a toujours été, dans les excès, et c'est-à-dire avoir des attitudes très sexy, très très arrogante avec son public, très aguicheur, et donc elle a été aussi à l'extrême dans cet endroit-là de son corps.
Vous racontez donc ces voyages du Texas à San Francisco, on en a parlé, des routes poussiéreuses aux autoroutes du soleil jusqu'à l'arrivée à New York, directement logée au Chelsea Hotel. Vous racontez donc l'émancipation d'une femme à travers ces voyages-là, mais surtout le prix à payer.
Oui, le prix à payer, effectivement.
Parce que vous tressez vraiment le portrait d'une femme terriblement seule.
Terriblement seule, oui, effectivement. Plus elle devenait une star, et plus elle disait elle-même « je suis de plus en plus seule ». Ce qui arrive peut-être aux gens qui sont adulés, qu'on n'ose pas approcher, ou je sais pas. Pourtant, elle était très très entourée, mais elle avait la maladie du manque un peu. Les gens, l'amour lui manquait tout le temps, et donc c'est pour ça qu'elle était dans des grands moments de solitude, et qu'elle palliait évidemment avec avec l'héroïne. Là, c'est pareil, elle a fait des allers-retours San Francisco, le Texas. Elle a aussi fait des allers-retours entre être plus ou moins clean, on va dire, puisqu'elle buvait aussi beaucoup, et essayer d'arrêter constamment l'héroïne. Mais elle est allée au bout de ça.
Aujourd'hui, bien sûr, Silicon, des années de lutte pour l'émancipation des femmes, des minorités, pour plus de liberté. Mais à l'époque où elle faisait ses premières scènes, ses premiers voyages, où elle signe avec son manager à New York pour une carrière de rockeuse, elle est perçue comme porte-parole d'une époque, d'une contestation, ou pas du tout? Ou comme juste elle, une femme qui ne ressemble pas aux autres?
Elle, en tout cas, ne veut pas être porte-parole d'une cause quelle qu'elle soit.
Et vous le dites ça très bien dans le livre, Nathalie.
Oui, tout à fait. Elle est plus, dans ce sens-là, beatnik que hippie, c'est-à-dire plus individualiste. Elle ne croit pas au changement par les manifestations, etc. Bon, elle se trompe un peu à l'époque quand même, puisque les choses ont avancé. Mais elle est perçue surtout comme une bête sulfureuse. Fureuse, en fait, quelque chose, on vient voir un phénomène quand on vient la voir sur scène. Et donc, les femmes, beaucoup qui la voient, pensent que elle a tout réussi, alors qu'elle donne tout. Et cette générosité qu'elle avait, d'une femme comme peu était au milieu d'hommes à cette époque-là, à diriger des hommes, même quand elle dirigeait ses musiciens, c'était très rare. Et donc, elle était vraiment adulée par les féministes. Sur Move Over, une des dernières chansons de Janis Joplin. Et vous rappelez dans votre livre, Nathalie Yott, qu'elle la chante pour la première fois le 25 juin 1970 à la télévision. Elle est l'invitée au Dick Cavett Show. Et parmi les invités, il y a elle, bien sûr. Et juste en face d'elle, il y a l'actrice Raquel Welch. Et vous dites que le contraste entre la starlette de cinéma... apprêtée, maquillée comme une poupée, raide sur son fauteuil, et Janis, emplumée, sans maquillage, cigarette à la main, et frappant ces deux Amériques qui se confrontent. Janis, elle est brillante quand elle s'exprime sur Dennis Hopper et son Easy Rider. Ces deux Amériques sont déjà là. Mais s'il fallait retenir une date importante dans la vie de Janis Joplin, est-ce que c'est Woodstock? Ou est-ce que c'est quand elle chante enfin avec Tina Turner au Madison Square Garden? Oh, je pense que ces deux dates sont importantes. Bon, le Woodstock, elle a un petit peu raté quand même, puisqu'elle était dans un état plutôt lamentable. Moi, j'en parle parce que je trouve que c'est pas si raté que ça, puisque c'est plutôt sa voix qui s'envole, comme elle s'envole d'habitude. Je dis sa voix devient folle. Enfin, bon, voilà. Donc, elle fait énormément de de montée, de descente, etc. Et bon, voilà, elle est un peu perdue à ce Woodstock. Sa scène avec Tina Turner, c'est Tina Turner qui l'a fait monter sur scène quand elle la voit dans le public.
Mais donc pour elle, ça doit être vraiment l'apothéose. Enfin, une chanteuse noire qui m'invite et qui me considère comme chanteuse.
Donc, oui, et puis comme son égale. Et c'est, je pense que oui, à ce moment-là, ça a été un beau moment pour elle d'extase. Oui.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et enfin, pour terminer cette émission avec vous, Nathalie Yott, je rappelle que le livre que vous consacrez à Janis Joplin sort la semaine prochaine. Pour vous, Janis Joplin, 50 ans après sa mort, elle représente quoi ?
Oh, maintenant, je pense qu'il y a de la nostalgie par rapport à ça. Bon, pas moi, hein, je le dis au début du livre, je n'ai aucune nostalgie par rapport à cette époque et cette femme. Maintenant, c'est presque une amie. C'est presque une amie parce que quand on regarde tous les détails, quand on se met dans la peau de quelqu'un, je me suis vraiment mis dans sa peau, j'ai essayé d'être elle, de chercher qui elle était vraiment en tant que femme et avec toutes ses aspirations et donc voilà, le dernier, le dernier chapitre, j'ai presque pleuré quand j'écris qu'elle meurt. J'avais pas envie qu'elle s'en aille parce que c'était et la fin du livre et puis c'était aussi sa mort et c'était triste, donc c'était devenu mon amie.
Autre originalité de ce livre édité chez Webeck, c'est que vous donnez la parole à vos amis, à vos proches, pas des spécialistes, juste des gens comme vous et moi.
Tout à fait, il y a un bonus,
oui. Ouais, et qui parle très très bien de Janis Joplin. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Janis Joplin ce matin, Nathalie Yott.
Merci à vous.
Et puis merci à vous, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture. Demain on se retrouve et comme tous les vendredis on parlera de l'actualité de la bande dessinée. J'aurai l'extrême privilège de recevoir Daniel Goossens. À demain.
Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes?
I mean, listen, if you want a cat for 365 days, so you gotta have music for 5 days. You gotta have for one day. Tell you that one day, but it'd be your life. Won't you buy me? Won't you buy me?